France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Les syndicats de pompiers professionnels mettent fin à leur mobilisation après plus de 6 mois de contestation. Ils étaient encore des milliers dans les rues à Paris hier. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment engagé à revaloriser dès l'été prochain la prime de feu en la portant à 25% du salaire de base contre 19% actuellement. Christophe Castaner a aussi annoncé le maintien des mécanismes permettant aux pompiers de partir en retraite anticipée à 57 ans en échange de cotisations supplémentaires. La 8e journée de mobilisation nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites a lieu aujourd'hui, alors que les deux projets de loi, l'un organique et l'autre ordinaire, ont commencé leur parcours à l'Assemblée nationale, après leur adoption vendredi dernier en Conseil des ministres. Les débats dans l'hémicycle doivent démarrer le 17 février prochain, malgré la mise en garde sévère du Conseil d'État vendredi dernier. Le président américain Donald Trump a dévoilé hier son plan de paix pour le Proche-Orient, un plan que Washington présente comme le deal du siècle et qui est très largement en accord avec les positions du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible de l'État hébreu. Et parmi les nombreux points sensibles de ce plan figure aussi la reconnaissance de l'annexion par Israël à son territoire des colonies implantées en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain. Nous irons à Washington et à Jérusalem dans le journal de 7h sur France Culture. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus chinois dépasse désormais les chiffres de l'épidémie de SARS en 2003 en Chine. Selon les données transmises par les autorités locales dans la province de la ville de Wuhan, épicentre du virus, et dans l'ensemble du pays, près de 6000 personnes sont atteintes par cette maladie qui a déjà fait au moins 132 morts en Chine. Alors qu'en France, un quatrième cas de coronavirus s'est confirmé depuis hier. Il s'agit d'un homme âgé de près de 80 ans, un touriste chinois dans un état grave. Il est hospitalisé à Paris.
Chaque jour sur France Culture à 10h, prenons les chemins de la philosophie, Adèle Hanouët.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous?
Cette semaine, sur les chemins de l'architecture, d'un art archi-utile à celui qui se dit fabricant de concepts et nous en parlera, Jean Nouvel. Bâtir, habiter et penser avec Heidegger. Comment faire du neuf avec du vieux, nos regards tournés vers Notre-Dame de Paris. Vous avez dit architecture, les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'armée rouge ouvrent les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau et libèrent les déportés survivants. En avril, les soldats américains libèrent le camp de Buchenwald. Le monde découvre alors l'existence des camps d'extermination nazis. Jusqu'au 30 janvier, France Culture consacre une programmation exceptionnelle au 75e anniversaire de la libération des camps. Rendez-vous dans vos émissions Les Matins, Le Cours de l'Histoire, La Grande Table, Le Temps du Débat, Une Histoire Particulière. Il y a 75 ans, la libération des camps, à retrouver sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, c'est un réveil en douceur et consacré au cinéma avec Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. C'est tous les jours de la semaine, très tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en podcast. Tous les mercredis, on parle de cinéma et aujourd'hui sort sur grand écran le premier long métrage de Jessica Palude, Revenir, un drame familial sur fond de la crise des agriculteurs en France. Jessica Palude et Nils Schneider, un des interprètes de son film, sont mes invités ce matin. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Alain Joubert.
Le réveil culturel. Mercredi. Cinéma.
Bonjour Jessica Palude, bonjour Nils Schneider.
Bonjour.
C'est votre premier long métrage.
Oui.
C'est librement adapté de L'amour sans le faire de Serge Jeancourt. Alors c'est un drame familial, je l'ai dit, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient dans la ferme familiale 10 ans après avoir quitté la région, la famille. Il revient parce que sa mère est mourante, il a de drôles de rapports avec son père, et puis il a aussi, il découvre son neveu, c'est-à-dire le fils de ce frère qui a disparu. On apprendra que sa disparition s'est faite dans des conditions dramatiques. Alors, on va écouter peut-être la bande-annonce du film et on revient tout de suite.
Bonjour. Il est là, ton grand-père ?
Hé, hey, vous êtes qui ?
C'est ton père qui t'a appelé.
Maman ! J'arrive.
Non, ma mère, elle m'a laissé un message. Ton frère, il a vendu pas mal de parcelles pour s'en sortir.
Mon père a laissé faire.
Elles sont passées où, les vaches ?
Vendues. Ça va pas suffire à payer les dettes, si tu veux savoir.
Pourquoi tu fais ça, dis ?
Mon père, c'était ton frère.
Ouais.
Ton petit frère.
Quand Mathieu et moi, c'était détruit, mais ils m'ont aidé. Je sais pas hein, ce qui s'est passé entre vous, mais c'est du passé, maman. Et pourquoi t'es pas venu à l'enterrement ?
Mon père n'est pas ce que j'ai.
Qui t'a dit ça ?
Lui.
J'ai jamais rien su de ce qui se passait ici, de toute façon.
C'est froid ! C'est où chez toi ?
Au Canada.
C'est loin ?
Tu crois que t'es le seul à souffrir ici ?
Un drame poignant, c'est un film politique, c'est un premier long métrage. Revenir de Jessica Palud, on a reconnu les voix de quelques comédiens de ce film, Nils Schneider bien sûr, mais Adèle Exarchopoulos, Patrick Dassumsao et Hélène Vincent dans le rôle de la mère. Je le disais, Jessica Palud, c'est librement adapté de L'amour sans le faire de Serge Joncourt. D'abord, pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que on revient sur la condition dramatique des agriculteurs en France à travers ce drame familial.
En fait, tout d'abord, c'est une histoire que j'ai commencé à écrire il y a 5 ans, parce que j'avais craqué effectivement sur le livre de Serge Joncourt. Ce que j'avais tout d'abord aimé dans ce livre, c'était cet homme qui avait quitté en fait cette ferme, ce monde rural, loin de tout, pour aller vers une autre culture, pour aller découvrir la ville, pour...
Et même un autre continent.
Un autre continent. C'était pas dans le livre, hein, ça, ouais. À la base. Et voilà, et tous ces non-dits, cette famille qui a du mal à se construire. Alors c'est vrai que c'est aujourd'hui un film vraiment librement adapté, parce que dans le roman de Serge Joncourt, on parle pas du vrai sujet de société du monde agricole, parce qu'on parle plus d'un monde de campagne, mais voilà, il n'y a pas un vrai sujet de société derrière. Le roman ressemblait beaucoup en fait à la pièce de Jean-Luc Lagarce de Xavier Dolan, et c'est vrai, quand ce film a été fait, je me suis dit que c'était plus possible de rester sur la même dramaturgie, et donc au fur et à mesure de mes recherches, j'ai vu tout ce qui se passait dans le monde agricole, et j'ai été interviewée des agriculteurs, j'ai passé du temps avec eux, et c'est là qu'est venu ensuite, en seconde version, ce sujet.
Effectivement, il y a 3 ans est sorti donc ce livre, cette enquête qui nous avait bouleversé, Agriculteur, les raisons d'un désespoir, où on apprenait, hein, d'Éric de la Chesnaye, vous l'avez sans doute lu, parce que c'est là où on apprenait que tous les 2 jours, un paysan se donnait la mort en France.
Ouais. Tous les jours, oui. Moi, j'ai pas lu le livre, en fait, mais j'ai rencontré des gens et ils me parlaient de leurs frères, de leurs voisins, de leurs amis. Et c'est vrai, je me suis dit que c'était un sujet dont on parlait très, très peu. Parce qu'on en parle aujourd'hui, c'est des choses qui ressortent aujourd'hui, mais il y a 4-5 ans, c'était des choses qu'on connaissait pas, quoi. Ouais. Enfin, moi, en tous les cas, j'étais pas au courant de ce qui se passait.
Et comment donc c'est monté ce projet, c'est-à-dire autour de cette envie de parler effectivement du monde agricole, mais toute l'intelligence de votre premier long métrage, Jessica Palud, c'est que le film se présente, il fonctionne comme un drame familial.
Oui, tout à fait. Je pense que, et par rapport aux autres films qui sont sortis précédemment, on est vraiment...
Ce n'est pas petit paysan, par exemple.
C'est le fil conducteur, ouais. Parce que c'est construit autour de cette dramaturgie et de ce secret, mais c'est avant tout un drame familial. C'est surtout comment faire famille quand tout a été abîmé, déconstruit. C'est avant tout une histoire d'amour familial. Mmh. Donc c'est vrai que c'est le sujet du monde agricole est un second sujet.
Même s'il est très présent, même s'il explique tout de ce film. Nils Schneider, quand vous recevez le scénario et la proposition de tenir le rôle donc du fils qui revient, comment vous avez lu, comment vous avez perçu cette histoire ? D'abord comme un drame social concernant les agriculteurs et la France d'aujourd'hui, la France agricole d'aujourd'hui, ou c'était pour vous aussi le contexte familial du film, du drame familial ?
Moi, ce que je trouve assez séduisant dans le scénario, c'est que il y a de la politique, il y a du social, il y a du sentiment, mais que rien n'est mis en avant, finalement. Tout est en filigrane. Le social irrigue tout le film, en fait, et tout le temps là, mais il y a, c'est pas un cinéma militant. C'est un vrai drame humain. C'était l'émotion avant tout, quoi. Et cette émotion-là... Alors, je sais pas si j'avais pas vu les courts-métrages de Jessica, je sais pas si j'y serais allé, parce que il y a très peu de choses, finalement, au scénario. Il fallait vraiment un regard de cinéaste qui puisse regarder des acteurs, regarder des personnages. Et j'ai vu son court-métrage Marlon, qui était vraiment fabuleux. Et elle arrivait à filmer les silences. Et les silences, déjà dans son court-métrage et dans celui-là, je crois, ne sont jamais vides. Il faut pas confondre les silences. C'est pas, les silences sont pas des temps morts, en fait. Et les silences, parfois, c'est quand justement il y a un trop plein d'émotions et qu'il n'y a pas de mots qui puissent décrire finalement ce que les gens ressentent. Et dans la famille est le lieu de ça. C'est pour ça que la famille, vu que c'est le lieu de l'affect, est un endroit où il y a des secrets, où il y a du non-dit, parce que on est pudique parfois. Et parfois, parce qu'à cause de l'affect, on a peur que les choses sortent mal. Et il y a des mots parfois très importants, juste un mot que un fils peut attendre toute une vie de la part de son père et qui viendra pas, quoi, ou pas comme il le veut.
Oui, parce que dans ce drame, les personnages sont taiseux. D'ailleurs, hanté, le drame qui familial, qui est au centre justement de la dislocation de cette famille, les rapports entre le fils et le père ne sont pas très très bons. On finira par savoir pourquoi, mais vraiment, à la fin du film, il y a effectivement une économie de dialogue dans votre premier film.
Oui, il y a une économie de dialogue. Après, les silences, finalement, étaient quand même très écrits. C'est-à-dire que c'est...
Comment on peut écrire des silences? C'est-à-dire...
Ça s'écrit dans les regards, ça s'écrit comme on écrit, on peut écrire aussi un roman. C'est-à-dire qu'on fait, il y a moins
dans les, ouais, dans
y a
les regards.
Il y a moins de dialogue dans le corps aussi, dans les mouvements, dans les regards. Et c'est marrant parce que du coup, on a reçu le prix du scénario à Venise. Et du coup, j'étais vraiment très très émue de recevoir le prix du scénario pour ce film et je leur ai dit merci d'avoir su écouter les silences de cette histoire, parce que les silences, c'est de l'écriture. On a l'impression que c'est simple, en fait, mais non, c'est de l'écriture, en fait, de savoir mesurer les temps, les gestes, les regards, c'est de l'émotion, quoi.
Et c'est du travail avec les comédiens. Comment vous avez travaillé ce
oui.
film, puisqu'on est avec le comédien principal, Nils Schneider, ce matin?
Oui, c'est du travail avec les acteurs. Bah, c'est avant tout ce que je dis toujours. Moi, c'est que ma plus grande peur, c'est le casting, c'est de bien choisir en fait ces personnages. C'est-à-dire que c'est de savoir ce qui dégage à la caméra et que ça soit des acteurs comme Nils et Adèle ou même l'enfant qui n'avait jamais joué. C'est de choisir
et qui est exceptionnel dans ce film.
Merci. C'est de choisir des personnalités, en fait, et même si c'est pas évident, je pense que Nils, il a, et moi quand je l'ai vu en casting, il revenait d'un tournage à Sarajevo, même physiquement c'était pas le personnage que j'imaginais.
On et, imagine mal un Apollon grec.
Et on a pris, voilà, ouais. il a pris du poids. On a
ouais. En revenant de Sarajevo, j'étais pas Apollon grec.
Vous étiez
cadavérique. J'étais cadavérique.
Et je voulais pas justement, ouais. Je voulais un personnage terrien, solaire, solide. Et on a retravaillé, voilà, on a retravaillé quelque chose de physique, et on travaille avec le corps beaucoup. Et c'est moi, j'aime bien être en casting. Il y a des réalisateurs qui sont pas en casting avec les acteurs, et c'est vrai que moi j'aime bien être en casting et tous les voir derrière la caméra pour savoir ce que je ressens moi. Vu qu'on est dans un film très silencieux, ce que je ressens moi en termes d'émotion. C'est-à-dire que c'est vrai que ouais. Nils, il a ça, il porte beaucoup de mystère. C'est il y a des comédiens, en fait, qu'on c'est vrai qu'il y a des comédiens qui sont faits pour beaucoup, beaucoup de dialogues. Il peut faire les deux, mais il y a des comédiens qui ont moins de mystère, c'est-à-dire qui sont moins capables de faire des films silencieux. Et c'est vrai que lui dégage ça à la caméra. Et
D'ailleurs, il restera mystérieux jusqu'au bout du film. Hein,
parce il restera que mystérieux jusqu'au bout du film.
On ne sait pas de quoi sa vie a été faite pendant ces 10 années d'absence. Et ça reste hors champ, si j'ose dire. Et chacun, d'ailleurs, garde sa part de mystère dans votre film.
Oui, bah pour moi, c'est l'essence même du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a la télé, il y a le cinéma. Et le cinéma, ça a toujours été le mystère. Et c'est toujours ce qui m'a plu. Moi, quand j'ai vu des films pour la première fois sur grand écran qu'on voyait pas sur petit écran, c'était des films de cinéma et avec cette part de mystère. Et après, on sait par bribes de choses. On sait qu'il est au Canada. On sait que il a un restaurant. On sait qu'il a personne dans sa vie. On sait, par petites choses comme ça. On a besoin de savoir que ça, finalement, puisque les choses, c'est le temps présent. Et on voit qu'il est en conflit avec son père, on voit qu'il a manqué des choses, donc...
Vous filmez les corps, vous filmez les regards. Dans votre premier long-métrage, Revenir, Jessica Palude, vous avez très bien cadré les scènes, c'est-à-dire ce qu'on voit est suffisant pour deviner ce qu'on ne voit pas. Mais vous avez aussi filmé un territoire, vous avez tourné ce film où? Puisque vous nous disiez que vous aviez beaucoup interviewé les agriculteurs avant de filmer. Pourquoi? Vous l'avez tourné où, ce film?
On a tourné dans la Drôme.
Pourquoi ce choix?
C'est vrai que c'était vraiment... Le film était écrit pour la Drôme, parce que je voulais quelque chose d'assez montagneux, d'assez solaire. C'est un paysage finalement qu'on voit peu dans le cinéma français. C'est vrai que souvent les campagnes sont plus grises, ou dans le monde agricole, c'est vrai qu'il y a un truc un peu tout gris. Et moi, j'avais envie de quelque chose de très ensoleillé. Et puis pour contrebalancer aussi l'histoire du film, d'avoir un soleil de plomb qui contrebalance la dureté de l'histoire, puisque finalement le film est assez solaire quand même.
Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que ce film de fiction, qui est basé sur un drame réel, c'est-à-dire ce qu'est devenu la paysannerie en France et les problèmes des agriculteurs au jour le jour, vous l'avez tourné au beau milieu de paysans, d'agriculteurs.
Bien sûr, oui. Et puis, pour finir, pour la Drôme, c'est que ça parle aussi de fermes qui sont très, très isolées. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de petites structures familiales qui sont au bout du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on parle d'une ferme qui est très loin dans la montagne, où le premier village est à 15 minutes. Nous, c'était vraiment au bout d'un chemin et c'était la dernière maison, quoi. C'est-à-dire que si cet agriculteur ne sort pas de sa maison, il voit personne. Ce sont des fermes vraiment isolées, quoi. On a tourné dans des décors réels, parce que la ferme principale, donc la ferme de Thomas, c'était au Poix-de-Cellard, dans la Drôme, et c'est des gens... C'est marrant, parce qu'en repérage, en fait, moi j'avais vu des décors en fait qui pouvaient être des décors de cinéma, c'est-à-dire une grande ferme vide où on faisait ce qu'on voulait, on pouvait un peu pousser les murs comme un décor. Et ça plaisait beaucoup à mon chef opérateur. Et moi, j'ai choisi ce décor-là, qui était un décor vrai, où il y avait vraiment des agriculteurs qui vivaient dedans, qui avaient leur étable vide, dont le fils était parti. Donc, une histoire un peu similaire de la nôtre. Donc, c'est ça aussi qui m'a bouleversée. Et un décor qui était très exigu, donc avec beaucoup de contraintes. Mais c'est ça que, je me sentais sur un vrai lieu. Sur un vrai lieu.
Les gens de ce lieu, pendant que se faisait ce film, qui a un rapport direct avec leur vécu.
C'était des gens assez âgés, ils avaient quoi, 80 ans, 70 ans, ouais. Au début, c'est toujours particulier quand une équipe arrive pour regarder un décor. Mais ils ont été touchés par l'histoire, ils ont lu le scénario, et puis ils ont été touchés... c'était une équipe assez jeune, assez je crois qu'on a eu un très très bon rapport avec eux. Puis ils ont vu le film à Montélimar et ils ont trouvé ça très très juste, quoi. Et les rapports en fait entre les gens, les silences, les non-dits, ils ont trouvé ça très très juste.
Et la tentation aussi de l'extrême droite quand on est désespéré.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est pour ça que.
Et dans la Drôme en plus.
Et dans la Drôme, Vous l'avez lu sans doute, le dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, mais parce que ça parle de la même chose. On est dans l'actualité et vous trouvez le juste milieu pour raconter tout ça, tout en étant très très proche des personnages, tout en faisant que ce film, Revenir, ça reste quand même un drame familial.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et notre coup de cœur cinéma d'aujourd'hui, c'est Revenir, premier long métrage de Jessica Palut, qui sort donc aujourd'hui, avec entre autres Nils Schneider, autre invité du Réveil culturel. Jessica Palut, du coup, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, votre parcours. Vous avez commencé le cinéma en étant très longtemps assistante, metteur en scène. Vous avez travaillé avec Bertolucci, vous avez travaillé avec d'autres metteurs en scène, Philippe Lioré, beaucoup. Sofia Coppola pour Marie-Antoinette.
Oui, en fait, j'ai commencé par stagiaire régie, vraiment à porter des cafés, bloquer des routes, voilà. Et après, oui, je suis passée assistante réalisateur, donc troisième. Je suis passée assez vite seconde, puis première. J'ai fait des plus gros films, effectivement, comme
Astérix d'ailleurs.
Astérix, voilà, ouais. Qui était une énorme machine. Et puis des films plus intimistes français, comme les films de Philippe Lioret ou Éric Lartigot, Diastème, voilà. Et oui, c'est sûr que c'était...
Qu'est-ce qui t'a été déterminant dans votre vie pour choisir le métier que vous faites?
Moi, j'ai un papa qui travaille dans le cinéma, donc c'est quelque chose que j'ai vu depuis toute petite et j'ai toujours été fascinée par ça. Ce qui est vrai, ce qui est marrant...
On revient à la famille, là.
On revient à la famille, au père. Non, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai plutôt été biberonnée à un cinéma, plutôt aux comédies, au cinéma américain, et je suis partie de moi-même vers un cinéma beaucoup plus intimiste, profond, donc c'est vrai que c'est... Voilà, on a des chemins assez différents. Mais oui, c'est sûr que moi, je voulais réaliser depuis très très longtemps. Après, c'est vrai que l'assistana, ça marchait bien. Je faisais voilà 3 films par an et qu'à un moment, faut prendre le risque de passer à l'écriture et de tout arrêter.
Ça a été facile de monter ce premier film, Revenir. C'est quoi aujourd'hui?
Ça a mis 5 ans.
Ouais.
Donc après c'est pas 5 ans non-stop, c'est-à-dire que 5 ans entre le début de l'envie et entre-temps j'ai fait mon court-métrage, donc voilà, j'ai aussi arrêté l'écriture. Ça a été assez vite, c'est vrai que mon court-métrage, je pense, a aidé en tous les cas ce que des gens lisent le scénario. Voilà, c'est vrai que ça a été plus vite sur les lectures après le court-métrage.
Nils Schneider, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une histoire de famille, vous, le fait d'avoir choisi ce métier de comédien? Vous avez eu dans les films de Xavier Dolan, mais pas que. Vous avez une carrière au théâtre aussi, parallèlement à ce que vous faites au cinéma, même si vous jouez beaucoup plus pour le cinéma.
Mais c'est le même métier pour moi, le théâtre et le cinéma, ça reste... c'est pas une autre carrière, c'est là en ce moment je lis des textes, j'ai envie de retourner au théâtre, mais c'est le théâtre me fait aussi du bien pour le cinéma et vice versa.
Une
histoire familiale, oui, parce que mon père était professeur de théâtre, donc et mon grand frère était aussi comédien, mais il est décédé vraiment très jeune. Il a une vraiment extrêmement courte carrière, mais c'est aussi pour me rapprocher de lui que j'ai voulu m'inscrire à des cours de théâtre à l'école et que j'ai monté la première fois sur scène. Et oui aussi parce que mes petits frères aussi jouent aussi, donc oui, on partage ça dans la famille.
Qu'est-ce qui fait que ce film-là particulièrement est un film qui vous interpelle? Est-ce que le fait que le personnage Thomas, donc dans le film Revenir, vienne de Montréal, cette ville où votre famille s'est exilée il y a quelques années, c'était aussi pour raccrocher un peu à ce que vous avez vécu?
Non, pas du tout. Pour moi, c'est un pur hasard, quoi. Mais Après, je pense qu'il y a quelque chose d'assez universel. Je pense qu'à partir, il y a quelque chose de très simple en fait dans le récit où justement tout le monde peut se projeter, tout le monde peut y voir le reflet de sa propre famille, même si, parce que tout le monde à un moment, je crois, à l'envie de prendre le large, à l'envie de partir, de partir à la rencontre du monde. Et dans certaines familles, alors moi ça n'a pas du tout été le cas, mais dans certaines familles, on peut voir ça comme une trahison. Ce qui arrive plus fréquemment dans le milieu agricole ou le milieu citadin et parfois...
Enfin, dans tous les milieux sinistrés, on est obligé de quitter...
Dans tous les milieux sinistrés, voilà. Et du coup, le personnage revient, mais il se sent presque étranger dans sa propre famille, quoi.
C'est quoi pour vous la définition d'un comédien, Nils Schneider? C'est d'avoir des idées à partager, ou c'est au contraire d'être un corps complètement disponible au metteur en scène? Et
moi, il y a plein de façons de vivre le métier de comédien. Moi, j'aime quand c'est créatif, quand il y a une vraie collaboration. Je suis contre la soumission totale du comédien comme un simple outil, ou alors il faut vraiment que le mec ou la fille soit un génie vraiment absolu, quoi. Je me dis, oui, si je sais pas, j'ai Hitchcock,
c'est trop tard,
ouais, c'est un peu tard,
c'est trop jeune pour ça.
Mais même chez les très 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 grands réalisateurs, je crois que les meilleurs, justement, ils collaborent vraiment avec leurs comédiens. Et
c'était le cas avec Jessica Palud, par exemple.
Oui.
Ou avec Xavier Dolan.
Ah, oui, justement, avec Jessica, on s'est beaucoup vu avant. Elle était très ouverte, quoi. Justement, on a beaucoup discuté. Elle n'était pas dans l'exécution, quoi, d'une idée prédéfinie de ce qu'elle voulait et fermée surtout. Je pense que un film à chaque étape se réoriente, s'ouvre. Et ben ouais, moi c'est ce qui me plaît. Si c'est que de l'application, je trouve que c'est un métier qui peut être hyper chiant rapidement.
Alors, et si on terminait là-dessus, Jessica Palud, comment les comédiens vous inspirent?
Non, c'est vrai que j'ai une attirance pour les comédiens qui dégagent quelque chose peut-être de plus sauvage, quelque chose d'organique. C'est vrai que c'est des comédiens que j'ai plus envie de filmer.
Pour ce film particulièrement ou d'une manière générale?
En général, ouais. je pense que je reviens vers ce genre de comédien en général qui m'inspire. Il m'inspire surtout pour un personnage, en fait. C'est-à-dire que c'est une histoire. Moi, je pense pas forcément à des acteurs en écrivant l'histoire. Donc, même mon prochain film, voilà, j'écris une histoire. J'aurai peut-être pas de rôle pour ces acteurs-là, ou peut-être qu'un prochain film d'après, j'aurai un rôle pour ces. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, et puis il y a des acteurs, il y a des personnages qui vont avec. Voilà, c'est. Il y a surtout des personnages, quoi.
Et vos personnages sont hauts en couleur dans ce drame familial et aussi un drame social, puisque, je rappelle, Revenir parle aussi de la crise des agriculteurs aujourd'hui, en France particulièrement. Et c'est totalement réussi comme premier film. J'ai été un plaisir de vous recevoir, Jessica Palud. Merci beaucoup, Nils Schneider, de l'avoir accompagné. Et aussi bravo pour ce film.
Merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Passez une bonne matinée sur France Culture. Je vous retrouve demain à la même heure.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Avez-vous bien fermé la porte en partant ce matin? L'avez-vous vérifié 1, 2 ou 10 fois? Nous nous intéresserons aux troubles obsessionnels compulsifs. Il sera également question des vides cosmiques, de téléportation quantique. Nous explorerons les limites du vivant avec l'une des plus grandes biologistes françaises, Nicole Ledouarin. Et vendredi, Tremblay, la méthode prend la direction du festival de Gérardmer pour se pencher sur la terrible malédiction du cinéma de science-fiction français.
La méthode scientifique, de lundi à vendredi à 16h et sur franceculture.fr.
Être vivant, 20 idées neuves pour 2020 sur France Culture cette semaine à travers de nombreux rendez-vous. Les équilibres écologiques et notre relation au monde, les mutations technologiques et l'intelligence artificielle. Agir, s'engager, donner du sens. Qu'est-ce qu'être vivant aujourd'hui? Autant de matières à penser, de lundi à vendredi à 22h15. Semaine exceptionnelle menée par Antoine Garapon, Dominique Rousset, Frédéric Worms, Patrick Boucheron, René Friedman et leurs invités. 20 idées neuves pour 2020 dans les émissions de France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr. En partenariat avec la Nuit des Idées.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Le coronavirus chinois a fait 25 morts de plus depuis hier, selon les autorités chinoises. Avec près de 6000 cas déclarés, le nombre de personnes infectées est supérieur à l'épidémie de SRAS de 2003 en Chine. Hier, un quatrième cas a été confirmé en France. Il s'agit d'un homme de près de 80 ans, un touriste chinois dans un état grave. Il est hospitalisé à Paris. Trois nouveaux cas sont désormais confirmés en Allemagne. 200 ressortissants chinois évacués de la ville de Wuhan ont atterri à Tokyo. Ce matin, les États-Unis ont annoncé de leur côté qu'un Boeing avait décollé ce matin de Wuhan pour rapatrier le personnel de son consulat et plusieurs de ses ressortissants. De son côté, la France a indiqué hier qu'un avion devrait atterrir jeudi dans cette ville, épicentre du virus, afin de ramener les premiers rapatriés français, probablement vendredi, selon le Quai d'Orsay. Ces personnes seront soumises à une quarantaine de 14 jours à leur retour, a précisé la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, qui estime entre 500 et 1000 Français dans ce chef-lieu de la province de Hubei. La Commission européenne indique de son côté qu'un deuxième avion décollerait plus tard dans la semaine pour au total rapatrier au moins 350 Européens, dont 250 Français, sans plus de précision. Huitième journée de mobilisation nationale interprofessionnelle aujourd'hui contre la réforme des retraites en France. Les débats dans l'hémicycle devraient commencer le 17 février prochain, après l'adoption des deux projets de loi, l'un organique et l'autre ordinaire, en Conseil des ministres vendredi dernier, malgré la mise en garde sévère du Conseil d'État. Le Conseil d'État qui doit étudier ce matin les 6 recours déposés contre la circulaire Castaner. Ce texte qui demande au préfet de ne pas effectuer d'attribution de couleur politique aux candidats des élections municipale pour les communes de moins de 9000 habitants. L'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de manipulation, estimant que 96% des villes seraient laissées de côté et que cela donnerait une image faussée du scrutin. Plus de précisions dans le journal de 7h30 sur France Culture. Avant cela, dans une demi-heure, nous irons à Washington et à Jérusalem pour analyser le plan de paix pour le Proche-Orient présenté hier par Donald Trump. Un plan qui prévoit la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible de l'État hébreu. Et parmi les nombreux points sensibles de ce plan figure aussi la reconnaissance de l'annexion par Israël à son territoire des colonies implantées en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain. Si le Premier ministre israélien a salué une journée historique, selon ses mots, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que le plan ne passerait pas. Il est impossible pour n'importe quel enfant arabe ou palestinien d'accepter de ne pas avoir Jérusalem comme capitale d'un État palestinien, a déclaré Mahmoud Abbas. Le Hamas, de son côté, qui contrôle la bande de Gaza, enclave palestinienne de 2 millions d'habitants, séparée géographiquement de la Cisjordanie, a aussi rejeté la proposition américaine.
En raison d'un appel à la grève émanant de la CGT Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Les vrais amours sont muets, tu aurais dû t'en douter, tu aurais dû la boucler et dire. Sûr que j'en serais pas là, à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter, ce qui est fait, fait, je ne te l'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dire. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et
met voice brother man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
And we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
Il est 6h40 sur France Culture, l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Sophie Delpont.
Alors les petits matins ouvrent le dossier de l'univers carcéral, femmes oui. détenues et jeunes du ghetto dans le journal des idées, oui. les prisons en Afrique dans les enjeux internationaux.
Oui, alors sous bien des aspects pour les femmes détenues, c'est la double peine. Dedans dehors, la revue de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, section française, publie un dossier sur la question marginale, 3,5% de la population carcérale. Elles sont aussi marginalisées. Seuls deux établissements sont entièrement réservés aux femmes en France et compte tenu de la réglementaire non-mixité dans tous les autres, elles subissent une forme de relégation dans la relégation qui a pour effet de limiter leur accès au travail, à la formation, aux activités sportives et culturelles, leur mouvement devant s'intercaler entre ceux plus fréquents des hommes détenus. L'accès aux soins est également restreint avec une difficulté supplémentaire, la pénurie de gynécologues exerçant en détention. Comme le montre l'enquête de Sarah Bosquet, le manque de produits d'hygiène contraint de nombreuses femmes à enfreindre le règlement intérieur pour s'en procurer. Alors que le gouvernement a annoncé une mobilisation inédite autour de la précarité menstruelle, elles sont nombreuses à décrire des situations indignes et qui les contraignent à ne pas quitter leurs cellules. Des filles se font fournir discrètement par leur mère, mais du coup elles prennent le risque d'une interdiction de parloir. Il s'agit pourtant de produits légaux, en vente libre. Et on n'a pas encore vu des jeunes s'évader avec des serviettes hygiéniques, ni faire une overdose de tampons, souligne la sociologue Yael Amselem-Mingui, qui a enquêté auprès de mineurs détenus. Leur dispersion géographique dans les établissements disposant de quartiers femmes les éloigne de leurs proches, ce qui accentue leur isolement et constitue un frein supplémentaire à la réinsertion. Un isolement aggravé par un effet de genre que rappelle la sociologue Corinne Rostin. Les maris qui maintiennent le lien avec leur épouse incarcérée, c'est très rare, soit parce qu'ils sont eux-mêmes incarcérés, soit parce qu'ils préfèrent rompre au contraire des épouses qui maintiennent longuement le lien avec des hommes incarcérés. Même constat dans la dernière livraison de la revue Passe-Muraille, éditée par le Génépi, une association d'étudiants qui interviennent en prison. Alors que les femmes ont plus tendance à être abandonnées par leurs proches et à ne pas avoir de visite durant leur détention, elles sont plus nombreuses à soutenir leurs maris, frères ou fils incarcérés. À noter que l'association, le Génépi, a momentanément, on l'espère, suspendu ses actions d'enseignement et d'information au sein des prisons du fait des contraintes imposées par l'administration pénitentiaire. Dans la stupéfiante enquête d'Alice Goffman, publiée au Seuil sous le titre « L'art de fuir » et consacrée aux effets conjoints de la misère, de la délinquance et de la politique d'incarcération massive dans un quartier noir de Philadelphie, les femmes consacrent beaucoup de temps et d'argent au soutien affectif et matériel de leur fils ou compagnon recherché par la police, mais elles peuvent à l'occasion se servir de la précarité judiciaire d'un homme contre lui comme outil de contrôle social en cas d'inconduite ou de violence à leur égard, qu'ils soient recherchés pour non-paiement de frais de justice, manquement à leurs obligations de contrôle judiciaire ou à une convocation au tribunal ou encore sous le coup d'un mandat d'arrêt. Les jeunes de ce quartier défavorisé ont rodé un art de la fuite dont la sociologue décrit les mille et un tours. Je cite, la menace de l'emprisonnement tisse de nouveaux rapports sociaux caractérisés par le soupçon, la méfiance et les pratiques paranoïaques du secret, de l'évasion et de l'imprévisibilité. La politique de tolérance zéro et l'usage des statistiques pour évaluer les performances policières, l'aggravation et la multiplication des peines, l'augmentation spectaculaire des effectifs des forces de l'ordre ont fait grimper les chiffres de la population carcérale, multipliés par 5 depuis les années 1970. L'écrasante majorité des détenus est pauvre et noire. Aujourd'hui, 30% des hommes noirs non diplômés ont purgé une peine de prison avant l'âge de 35 ans. Et un enfant noir sur 4 est né en 1990. A vu son père emprisonné vers l'âge de 14 ans. Les conséquences en chaîne bien connues de l'incarcération s'appliquent à plein régime. Discrimination sur le marché du travail, accès bloqué à de nombreux avantages sociaux comme le logement, citoyenneté annulée et droit de vote supprimé. Conclusion, tant de Noirs ont été emprisonnés et condamnés que la prison est devenue l'une des principales fabriques d'inégalités dans la société américaine, faisant ainsi reculer les acquis en termes de citoyenneté et de position socio-économique que les Noirs avaient conquis grâce au mouvement des droits civiques. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon.
Bonjour, bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Alors, au sommaire, on le disait, Sophie Delpont le disait, les réformes pénales, donc, dans les pays d'Afrique en transition.
Oui, les réflexions sur les conditions d'incarcération dont vous êtes fait l'écho à l'instant, Jacques, mais aussi sur le sens de la peine, ne sont pas qu'un problème de pays riches, comme on l'entend parfois, même dans des pays du continent africain où l'accès de toute la population à l'alimentation, à la santé, pose encore de nombreux problèmes. Eh bien, des projets de réforme de la prison sont à l'étude, ou du moins en débat. La déclaration dite de Kampala, qui date de 1996 sur les conditions de détention en Afrique, préconisait par exemple le recours aux peines alternatives. Alors il ne s'agit pas de comparer entre elles toutes les prisons d'Afrique, hein, ça n'aurait aucun sens, elles s'inscrivent chacune dans des contextes politiques et sociaux différents, mais de vous donner à entendre certains enseignements tirés par une revue parue tout récemment des prisons en Afrique, expérience, modèle et circulation au pluriel. Enseignements qui concernent par exemple la prison dans les pays en transition politique. Bonjour à vous Yasmine Bouaga.
Bonjour.
Merci d'être passée par nos studios parisiens ce matin. Vous êtes chargée de recherche au CNRS au laboratoire Triangle à Lyon. Vos travaux en sociologie politique portent notamment sur les politiques pénales et sur les migrations. Et vous participez donc à cette revue dirigée par Marie Morel et Frédéric Lemarcy. Alors on a consacré plusieurs émissions dans les enjeux internationaux à des pays du continent africain qui ont amorcé une transition politique, que ce soit au Soudan, en Tunisie, que vous avez particulièrement étudié Yasmine Bouaga, et que vous constatez, ce que vous constatez, c'est qu'à chaque fois, à chaque changement de pouvoir, la prison est un enjeu central. Donc pour prendre l'exemple de la Tunisie que vous connaissez bien, comment ça s'est passé après l'indépendance?
Oui, alors cette recherche, elle est c'est une recherche collective hein, qui est menée par un groupe dans un collectif qui s'appelle ECOPAF. On travaille sur différents pays africains et dans une perspective de sociologie, mais aussi d'histoire et de géographie. Donc moi, je m'inscris plutôt dans une perspective actuelle hein, de sciences sociales, de sociologie, j'ai travaillé sur la transition politique après 2011, après la chute de Ben Ali. Et ce que j'ai pu voir, c'est que ce moment de changement de pouvoir a été un moment de mise en problème de la prison. On a parlé bien sûr des prisonniers politiques, de l'usage de la prison comme un instrument de répression par le pouvoir. Et ce moment de révolution a été un moment de libération importante par des évasions, par des amnisties et aussi par une réflexion sur comment est-ce qu'on peut changer la prison et la penser autrement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans de nombreuses situations en Afrique, les moments de changement de pouvoir sont aussi des moments de mise en problème de la prison, où les anciens gouvernants vont parfois être incarcérés et où les anciens opposants politiques vont être libérés.
Donc c'est une façon de construire le pouvoir, en fait. Soit on enferme les rebelles, ou soit au contraire on ouvre les vannes, on libère d'anciens opposants politiques. C'est souvent d'ailleurs une demande, ça fait partie souvent des négociations de paix ou de transition politique, et à chaque fois c'est une manière pour le pouvoir en place, celui qui se met en place en tout cas, de construire son pouvoir.
Voilà, tout à fait, c'est un instrument à la fois symbolique hein, pour dire une adhésion à des principes internationaux de respect des droits de l'homme, on va adhérer à des conventions qui énoncent son respect de normes de bon traitement des détenus, par exemple les règles Mandela de bon traitement des détenus, le protocole de prévention de la torture qui prévoit une instance de contrôle des lieux de privation de liberté. Donc ça, c'est une manière de transformer symboliquement la prison. Et il y a aussi une manière d'utiliser la prison comme un instrument de construction très matériel du pouvoir, avec l'incarcération de nouveaux opposants ou avec la libération d'anciens, avec la construction aussi de nouveaux établissements, qui est une manière de dire on va changer les conditions d'incarcération, rompre avec des conditions trop décriées, trop scandaleuses, le symbole d'anciennes prisons politiques qu'on va transformer en musée, comme la prison qui a incarcéré Nelson Mandela par exemple, qui a été transformé en musée, Robben Island, mais aussi construire la capacité du nouveau pouvoir à établir une crédibilité sur son contrôle de la société. Et le cas de l'Afrique du Sud est aussi intéressant à cet égard, puisqu'il y a une construction de prisons et une explosion de la population carcérale dans la période aussi de post-apartheid.
Alors, encore pour rester deux minutes sur la Tunisie que vous connaissez bien, Yasmine Bouaga, la Tunisie récente, les derniers événements, les responsables où les sympathisants du parti islamiste Ennahda n'ont plus peur d'être jetés en prison, puisque son chef, leur chef, Rachid Ranouchi, est devenu président de l'Assemblée. Mais pour autant, vous disiez en préparant cette émission que contrairement à ce qu'on peut croire, les moments de transition politique, et notamment dans ces pays d'Afrique que vous avez étudiés, sont souvent des moments où on incarcère, on met en prison quand même, peut-être pas en masse, mais beaucoup, parce qu'il y a une demande de sécurité de la part de la population, et que finalement ce sont des pays où parfois on incarcère davantage que dans des dictatures.
Voilà, je vous ai pris le cas de l'Afrique du Sud parce que c'était très spectaculaire, mais en Tunisie aussi, on a vu ce phénomène de, à la fois la volonté, au moment de la révolution, de libérer les prisonniers politiques, mais aussi la crainte que trop de libération amène trop de désordre, et une demande sociale d'ordre et de sécurité qui s'est exprimée aussi très fortement, a fortiori avec le contexte de la lutte antiterroriste, hein, la montée de mouvements djihadistes armés et en même temps qu'on disait qu'il fallait moins incarcérer, développer les peines alternatives, on a pris en Tunisie des lois sécuritaires beaucoup plus répressives qui aggravent les peines d'incarcération pour ce type d'infraction. Et donc on a là une tension très forte avec une demande aussi de protection de la part de la population qui peut amener à un très fort recours à l'incarcération.
En revanche, dans les pays sous dictature, si les prisons sont parfois moins remplies, c'est parce que tout simplement c'est plus facile de sortir un billet. C'est ça, au commissariat ou devant le juge?
Oui, alors.
C'est pas pour les bonnes raisons, en tout cas.
Alors, on a voulu, dans le cadre de ce programme, s'interroger sur les contrastes, hein, dans les pays africains entre les taux d'incarcération. Est-ce qu'on s'est rendu compte que ce ne sont pas les pays les plus durs sur le plan politique qui ont la part la plus importante de la population dans leur prison? Le cas des États-Unis est aussi très emblématique là-dessus. C'est un système politique démocratique, mais qui incarcère beaucoup plus que n'importe quel autre pays sur la planète. Et à l'inverse, des régimes dictatoriaux très très durs peuvent avoir des taux d'incarcération faibles aussi parce que on peut utiliser la corruption pour éviter la prison. Il y a une impunité d'un certain nombre de délits et le système ne fonctionne pas de façon juste.
Alors Yasmine Bouaga, dans cette revue des prisons en Afrique, vous parlez aussi de la prison comme un des enjeux des programmes de développement financés notamment par des bailleurs internationaux, donc a priori les pays dits du Nord. Et là, vous parlez de la prison comme d'un marché. En tout cas, vous parlez de marché de la réforme pénitentiaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, dans le cadre de ce programme de recherche, quand on a étudié les pays africains, on s'est rendu compte que la prison, elle était mise en problème par beaucoup d'ONG, d'acteurs internationaux qui allaient dénoncer les conditions d'incarcération dramatiques en Afrique, dans de nombreux pays africains, et ce qui est vrai, de surpopulation, de malnutrition des détenus, de surmortalité à cause de problèmes de santé, de mauvais traitements, etc. Et on a observé un développement très important de programmes visant à améliorer les conditions de détention, améliorer plus largement la manière dont fonctionnait la prison, développer des réformes législatives pour avoir des peines alternatives. Et on s'est interrogé sur les logiques de ces programmes-là, en voyant que, par exemple, l'Union européenne finançait beaucoup de réformes pénitentiaires dans différents pays. Donc on a observé que ça faisait maintenant partie des programmes de développement. Donc on avait des programmes dans le domaine de la santé, de l'économie, mais également de la justice et des prisons.
Donc c'est un marché en ce sens que ça répond à la loi de l'offre et la demande, en quelque sorte. Voilà, mais c'est quand même une expression particulière et intéressante.
Ce qu'on a observé, c'est que le fait de s'intéresser à cela pour des bailleurs de fonds, ça veut dire qu'on va apporter de l'argent et qu'on va créer une offre sur tel programme pour améliorer les conditions de détention, par exemple des femmes en prison. On va créer un sujet important sur ce domaine-là.
Mais à part les enjeux éthiques, quel est l'intérêt pour ces bailleurs de fonds?
Pour ces bailleurs de fonds, il y a un intérêt de sécurité, un intérêt d'influence aussi dans ces pays. C'est de maintenir de la coopération et une présence sur un terrain juridique, mais aussi un terrain d'infrastructure, puisqu'il y a de la construction d'établissements qui peut aussi avoir lieu, et différents acteurs internationaux interviennent. Je vous ai parlé de l'Union européenne, les États-Unis ont aussi des programmes importants dans ce domaine. Et pour ce qui est de la construction, il y a d'autres acteurs qui n'interviennent pas directement pour la réforme, mais qui vont construire des établissements. Et c'est le cas notamment de la Chine, qui est très active dans le secteur du BTP en Afrique.
En Algérie, au Cameroun notamment. Donc l'Union européenne, principale bailleur de fonds, ce faisant, est-ce qu'elle transfère aussi des recettes, des modèles de réforme pénitentiaire, alors des modèles de prison, vous semblez dire qu'il y a aussi des centres pénitentiaires XXL à la façon de ce qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis qui ont été construits en Afrique? Et est-ce que ça crée parfois des tensions avec la façon dont sont conçues la justice et la prison sur place?
Alors effectivement, c'était une des questions qu'on s'est posée dans le cadre de ce programme. Est-ce que il y a une forme de mondialisation du bien punir? Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un enjeu de diffusion de modèles, certes, mais il y a aussi un enjeu d'appropriation pour les pays en question. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la prison, c'est une manière de construire le politique, de construire l'État. Il y a aussi une réappropriation des programmes par les acteurs locaux, les acteurs institutionnels qui veulent aussi renforcer leur pouvoir. Ce qui aboutit souvent à privilégier des orientations de sécurité par rapport à ce qui va relever de changement du sens de la peine, de promotion des peines alternatives, etc. En gros, on va construire plus de prisons qu'on va développer les peines alternatives. Et ces programmes-là, ils ont cette limite qu'ils ne vont pas intervenir sur la justice en général et sur les inégalités sociales face à la justice. Et c'est là la grande limite de ces programmes de réforme pénitentiaire.
Alors, on n'a pas eu le temps de dire que les acteurs de ces réformes, c'était pas seulement des agences de coopération ou des ONG, il y a aussi des intermédiaires privés. En tout cas, merci beaucoup Yasmine Bouaga d'être venue nous parler de cette, alors je dis revue, mais c'est un cours, c'est l'imprimé, la version imprimée d'un cours qui tourne notamment sur la plateforme de la Sorbonne, un cours en ligne des prisons en Afrique, expérience, modèle et circulation. Et je rappelle que vous êtes donc sociologue chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Triangle à Lyon. Merci beaucoup,
merci
et bonne
beaucoup.
Journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, partenaire de la Nuit des idées, organisée par l'Institut français partout dans le monde, sur le thème « Être vivant, quelles idées neuves pour 2020 ?» France Culture vous propose d'assister demain 30 janvier dès 18h20 au Collège de France à Paris à 5 débats animés par Emmanuel Laurentin et Chloé Cambrelin, suivis des émissions « Matière à penser » de Patrick Boucheron. Et dès 20h30 à la BNF François Mitterrand, au Masterclass d'Elisabeth de Fontenay, philosophe, et François Sureau, romancier. La Nuit des idées, jeudi 30 janvier, entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur les sites France Culture, La Nuit des idées.
6h57, bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gaco, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre humeur du jour, Guillaume. Curtis est-il coupable?
C'est une vraie question, Julie. Est-il un meurtrier? Beaucoup de gens se posent cette question et si vous ne vous la posez pas, c'est peut-être parce que vous êtes, comme France Culture, vous vous intéressez peu aux faits divers. Mais ceux que les crimes fascinent se passionnent depuis quelques jours pour la culpabilité ou l'innocence de Curtis. Curtis ferait un coupable idéal, a titré l'Union de Reims hier. Je me suis dit que Curtis allait me tuer, explique un témoin dans Le Parisien d'il y a deux jours. Soutien et détracteurs de Curtis s'organisent. Une cagnotte destinée à la défense de Curtis a recueilli un peu moins de 7000 euros, mais cette somme récoltée a été, semble-t-il, dérobée par une personne indélicate. Alors qui va payer les frais d'avocat de Curtis ? Pouvez-vous dire que Curtis va payer lui-même ses avocats ? Alors si vous ignorez que Curtis est un chien. Et oui, tout a débuté avec le décès d'une femme en forêt. Cette femme aurait été tuée par une meute de chiens participant à une chasse à cour. Je dis aurait parce que l'autre hypothèse, c'est qu'elle aurait été tuée par son propre chien, Curtis, lequel se révélerait depuis agressif. Et les journaux de s'interroger sur l'agressivité du chien, est-elle liée à sa personnalité, à la mort de sa maîtresse, ou bien encore aux conditions de la mort de sa maîtresse? Ce chien est-il en quelque sorte en stress post-traumatique? La question de la personnalité du chien devient centrale. Elle est discutée dans la presse comme s'il s'agissait d'une vraie personne. La cagnotte était d'ailleurs destinée à deux avocats, ces avocats devant défendre Curtis et permettre de l'orienter dans une structure spécialisée. Dans la presse, tout se passe comme si Curtis aujourd'hui avait éclipsé la défunte, le chien, devenant le sujet de l'histoire et non plus son objet. Cette histoire peut vous paraître post-moderne ou pré-moderne. Traiter un chien comme une personne, voilà qui est au choix ou bien nouveau ou bien très ancien, puisque Jean Duret, avocat du roi en 1673, disait « Si les bêtes ne blessent pas seulement mais tuent ou mangent, il est possible de les condamner à être pendues et étranglées pour faire perdre mémoire de l'énormité du fait. » Aujourd'hui encore, à nouveau, si les bêtes peuvent être victimes, elles peuvent également être coupables.